VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui. Édition du vendredi 22 février 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Nigeria, la CENI assure que les élections générales reportées de samedi dernier auront bien lieu demain.
5 personnes ont été tuées et 9 autres enlevées dans 2 attaques de Boko Haram dans la région du lac Tchad.
Centrafrique, Washington exprime ses vives inquiétudes suite à des violences imputées à Bambari, à des militaires centrafricains et à des formateurs russes.
La Maison-Blanche a annoncé qu'environ 600 de ses militaires, de militaires américains, resteront sur place en Syrie après le retrait des troupes américaines.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Nigeria, la commission électorale a assuré hier que les élections présidentielles et législatives, qui ont été reportées d'une semaine, auront bien lieu, comme annoncé, demain, samedi 23 février. Le point avec Michel Joseph.
Je veux vous assurer que les élections auront bien lieu samedi, a promis Mahmoud Yakubu, président de la commission électorale indépendante. Il n'y aura pas de nouveau report. La commission n'envisage pas de report, a-t-il insisté. Il a toutefois reconnu que seuls 19 des 36 États nigérians et Abuja, la capitale, ont déjà reçu le matériel électoral, mais il a répété que tous les États, à l'exception d'un seul, recevront le matériel à temps. Demain, plus de 84 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dans près de 120 000 bureaux de vote dans le pays le plus peuplé du continent. La campagne électorale a pris fin hier soir. Le président Muhammadu Buhari, au pouvoir depuis 2015 et qui brigue un second mandat, a appelé hier les électeurs à braver tous les défis et à aller voter. Son principal adversaire, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, a rappelé qu'en 2015, les Nigérians ont provoqué un changement de président et que demain, ils auront à nouveau la possibilité de le faire.
Dans la région du lac Tchad, des membres du groupe Boko Haram ont tué 5 personnes et en ont enlevé 9 autres, dont 6 femmes, au cours de 2 attaques. C'est ce qu'a révélé hier un responsable local. Précision de Raissa Girondin.
Selon Dimouya Soyapebe, secrétaire général de la province du lac Tchad, ces attaques ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Dans le premier village attaqué, Boubura, 5 personnes ont été tuées et 5 blessées, tandis que les enlèvements ont eu lieu dans une autre attaque menée contre le village de Ngassia. Dans la nuit de mercredi à jeudi, plus de 200 têtes de bétail ont été volées et 7 éleveurs enlevés dans le même secteur dont l'un a réussi à s'échapper. Par ailleurs, sans rapport direct avec ces attaques, 5 membres présumés de Boko Haram ont été arrêtés lundi à N'Djamena. Le groupe Boko Haram sévit au Nigeria, son pays d'origine, mais mène ponctuellement des incursions meurtrières dans les pays voisins, le Tchad, le Niger et le Cameroun.
République centrafricaine, les États-Unis ont fait part jeudi lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU de leur vive inquiétude face aux violences imputées à Bambari, à des militaires centrafricains et à des formateurs russes. L'ambassadeur adjoint Jonathan Cohen a réclamé que leurs auteurs soient traduits en justice. Son vis-à-vis russe, Dimitri Polyansky, a dénoncé une interprétation déformée et une volonté de nuire à l'action russe en la décrivant de manière négative. La ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Sylvie Baï-Potémon, a pour sa part indiqué que des enquêtes étaient en cours sur cette affaire.
Au Burkina Faso, le ministre de l'Alphabétisation nationale, Stanislas Ouahro, a annoncé hier qu'un millier d'écoles ont fermé ou ont suspendu leurs cours dans 5 régions du pays en raison des menaces des groupes djihadistes. Confirmant au journal de la télévision d'État les chiffres annoncés par l'ONU la semaine dernière, le ministre a aussi précisé que quelques 5000 enseignants ne peuvent pas travailler.
En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, le nouveau président, a reversé au Trésor public le reliquat de son premier voyage officiel. Des détails avec Eddie Isango.
Le montant remis est de 163 000 dollars américains selon les bordereaux de la Banque centrale que VOA Afrique a pu voir. Le document signé le 19 février 2019 n'indique pas les montants dépensés ni la somme totale prévue pour le voyage. Il constitue les reliquats de la mini-tournée régionale de Félix Tshisekedi d'il y a 2 semaines après son investiture. Lors de cette première sortie officielle, les nouveaux chefs de l'État s'étaient respectivement rendus en Angola, au Kenya, au Congo-Brazzaville, avant de finir à Addis Abeba en Éthiopie pour la session ordinaire de l'Union africaine. Les derniers reversements des reliquats de voyage connus dans le pays remontent au premier gouvernement du président Joseph Kassavubu et son premier ministre Patrice Emery Lumumba en 1960. Lors de son investiture, le 24 janvier dernier, Félix Tshisekedi avait promis de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille.
Au Burundi, des policiers ont été arrêtés jeudi dans le sud du pays après la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo les montrant en train de torturer d'une façon inhumaine un homme âgé accusé de sorcellerie. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Sécurité publique. Plusieurs habitants interrogés par l'AFP ont confirmé que ces incidents se sont bien déroulés mercredi à Mugara, où la population en avait après ce sorcier accusé, ce soi-disant sorcier, accusé d'avoir assassiné une petite fille en prétendant vouloir la guérir.
Au Soudan, des militants et des membres de l'opposition ont été arrêtés hier par les services de sécurité, alors que des centaines de manifestants qui tentaient de marcher en direction du palais présidentiel à Khartoum ont été dispersés. John Lyndon.
Au cri des libertés, paix, justice, des manifestants amenés par les militants de la contestation anti-gouvernementale ont convergé vers le centre de la capitale. Ils ont, selon plusieurs témoins, été la cible des tirs de gaz lacrymogènes de la part des forces anti-émeutes. Et plusieurs militants ont été interpellés par des agents de sécurité en civil. Rabah Al-Mahdi, du principal parti d'opposition Al-Houma, a de son côté affirmé qu'au moins 26 membres, dont des cadres de l'opposition, ont été arrêtés dans le centre de Khartoum. L'association des professionnels soudanais, qui regroupe des enseignants, médecins et ingénieurs, avait une nouvelle fois appelé les manifestants à se diriger vers le palais pour remettre à la présidence une note réclamant la démission de Monsieur Omar El-Béchir. Le Soudan est le théâtre depuis 2 mois de manifestations quasi quotidiennes déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, la Maison-Blanche a annoncé hier qu'environ 200 soldats resteront pour un certain temps en Syrie après le retrait des troupes américaines de ce pays. La porte-parole Sarah Sanders n'a pas donné d'autres détails. Quelques 2000 militaires américains appuient actuellement sur le terrain les forces kurdes qui combattent les djihadistes du groupe État islamique dans leur dernier réduit. Anticipant la défaite totale de ces derniers, le président Donald Trump avait, à la surprise générale, annoncé en décembre que toutes les forces américaines auront quitté la Syrie au plus tard fin avril. Décision qu'a énergiquement condamné un de ses plus grands alliés républicains au Congrès, le sénateur Lindsey Graham.
Et puis le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a justifié hier sa décision de refuser le retour aux États-Unis d'une femme originaire de l'Alabama ayant rejoint le groupe État islamique en Syrie, et ce en raison du statut diplomatique de son père. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Oda Mutana, 24 ans, a exprimé des remords et dit souhaiter rentrer aux États-Unis afin d'y être jugée. Une chaîne américaine a demandé hier à Mike Pompeo si le statut du père, un ancien diplomate yéménite réfugié aux États-Unis et installé en Alabama, était la raison pour laquelle la jeune femme ne pouvait prétendre à la nationalité américaine. Monsieur Pompeo a répondu « C'est exact, elle est peut-être née ici et n'a pas la nationalité américaine ». Les États-Unis accordent la nationalité à presque tous les enfants nés sur le sol américain, sauf les enfants des diplomates étrangers, car le 14e amendement précise que la citoyenneté est accordée à tout enfant soumis à la juridiction des États-Unis. De son côté, l'avocat de la jeune femme, Maître Hassan Chibli, affirme que Mutana est née en 94 dans le New Jersey et qu'elle est citoyenne américaine. Détenue dans le nord-est syrien après s'être rendue aux forces arabo-kurdes, Oda Mutana dit vouloir rentrer aux États-Unis et dans des entretiens avec plusieurs journaux, elle affirme regretter profondément ses actes.
Au sujet de la Corée du Nord, le secrétaire d'État Pompeo a souligné que les États-Unis n'ont aucune intention d'assouplir les sanctions économiques contre Pyongyang jusqu'à ce qu'ils soient confiants dans une réduction substantielle de la menace nucléaire que représente ce régime. Le président Donald Trump doit avoir un second sommet la semaine prochaine au Vietnam avec le leader nord-coréen Kim Jong-un.
Le bras de fer au Venezuela entre l'opposant Juan Guaido et le président Nicolas Maduro se poursuit ce vendredi sous forme de concert à la frontière colombienne. L'un pour demander l'entrée de l'aide humanitaire américaine dans le pays, l'autre pour dénoncer une agression des États-Unis. Juan Guaido a promis de faire entrer cette aide samedi, malgré le refus du gouvernement qui y voit les prémices d'une intervention militaire des États-Unis. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Sud-Coréen Hyundai a ouvert sa première usine de montage en Afrique de l'Est. Située en Éthiopie, elle a une capacité de 10 000 véhicules par an. Hyundai espère que les voitures assemblées localement pourraient se révéler attractives compte tenu du coût des importations en raison des taxes élevées. Le choix éthiopien de Hyundai est motivé par la croissance de l'Éthiopie, l'une des plus rapides de l'Afrique. Zenith Bank du Nigeria vise une croissance des prêts de 7,5% en 2019 après le repli de 2018 en raison de remboursements anticipés, disant que les emprunteurs remplaçaient les découverts par des prêts à long terme. La banque prévoit aussi une activité accrue dans le secteur agricole qui bénéficie d'un soutien important du gouvernement. Pour finir, les pêcheurs du Sénégal peuvent à nouveau lancer leurs filets dans les eaux réputées très poissonneuses de la Mauritanie grâce à l'entrée en vigueur d'un accord entre Dakar et Nouakchott. Ils bénéficient désormais de 400 licences de pêche et d'un quota annuel de 50 000 tonnes de poissons. En échange, le Sénégal doit verser à la Mauritanie 15 euros pour chaque tonne de poisson pêché. Dakar a également accepté que les pirogues soient inspectées en Mauritanie et que 6% des captures soient réservées au marché mauritanien, où les prix n'avaient cessé de monter depuis 2015.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Des dizaines d'arrestations au Maroc après des violences.
Oui, 42 supporters ont été arrêtés pour leur implication présumée dans des actes de vandalisme mercredi à Oujda lors d'un match du championnat. Ces incidents se sont déroulés après le coup de sifflet final de la rencontre perdue par la Renaissance sportive de Berkane face au Mouloudia Club d'Oujda, comptant pour la 16e journée de la Première Ligue marocaine. Les images des scènes de violence diffusées par la presse locale montrent des dizaines de supporters envahir le terrain, des policiers blessés, un véhicule de police endommagé et des sièges et poteaux arrachés dans un stade qui venait tout juste d'être rénové. Il s'agissait du premier match disputé dans le stade d'Oujda depuis sa réouverture le 19 février, après plusieurs mois de travaux.
La Gambie encore déboutée dans l'affaire Oloufadé.
Oui, la CAF a rendu son verdict définitif dans l'affaire James Oloufadé à l'issue du match nul face au Togo 1-1 dans les éliminatoires de la CAN 2019 en octobre dernier. La Fédération gambienne de football a déposé un recours pour contester l'éligibilité de ce joueur togolais que la Gambie soupçonnait d'être nigérien. Débouté pour une première fois, la JFF a fait appel de cette décision, mais la commission d'appel de la CAF a confirmé le verdict initial en rejetant l'appel des Scorpions tout en maintenant qu'Oloufadé est apte à jouer pour le Togo.
En Europe, Arsenal file en huitième de finale de la Ligue Europa.
Oui, après leur défaite surprise à l'aller au Bélarus 1-0, les Gunners ont inversé la tendance en battant le Bate Borisov 3-0 pour se qualifier pour les huitièmes. Pour Naples et Valence, l'essentiel était fait dès l'aller. Italiens et Espagnols ont confirmé en gagnant à nouveau, rejoignant en huitième de finale le Dynamo Zagreb, Francfort, Salzbourg, Villarreal ainsi que le Zénith Saint-Pétersbourg. Le Séville FC s'était de son côté qualifié mercredi face à la Lazio. Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu ce soir.
NBA, Joel Embiid, absent une semaine.
Oui, le pivot camerounais de Philadelphie qui revenait du All-Star Game sera absent au moins une semaine à cause d'une blessure au genou gauche. Son entraîneur Brett Brown a précisé que l'IRM a montré une blessure légère. Joel Embiid va notamment effectuer une semaine de physiothérapie. À 24 ans, il a déjà connu de multiples blessures qui ont retardé de 2 ans son arrivée en NBA et lui ont fait manquer 51 matchs de sa première saison.
L'équipe de Joel Embiid de Philadelphie a battu hier soir Miami 106-102. Autre résultat, Cleveland et Phoenix 111 à 98, Portland et Brooklyn 113 à 99, Milwaukee et Boston 98 à 97.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydou Dia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, la campagne électorale pour la présidentielle du dimanche 24 février prend fin ce vendredi. Que retenir de cette campagne de 3 semaines? Eh bien, pour des éléments de réponse, notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué, s'est entretenu avec l'écrivain et analyste politique Amidou Anne, ainsi qu'avec le journaliste chroniqueur Pape Djibril Fall.
Les 5 candidats ont tous proposé des programmes, mais face aux populations, ils n'ont pas toujours pris le soin d'aller au fond des choses. C'est du moins l'avis du journaliste chroniqueur Pape Djibril Fall.
Sur les programmes, sur les offres programmatiques, sur les projets de société, malheureusement, à quelques exceptions près, on a perpétué ce qui se faisait jusque-là, c'est-à-dire aller se donner des bains de foule, des incantations politiques, mais on n'a pas pris le temps véritablement de discuter avec les populations des programmes, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui est réalisable.
Cependant, l'analyste politique Amidou Anne affirme que chacun a pu faire avec ses atouts pour essayer de convaincre l'électorat sénégalais.
D'abord, le candidat sortant, Macky Sall, je pense qu'il a un bon bilan économique, même si il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas durant son premier septennat, notamment sur la question des libertés publiques, sur la question de l'approfondissement de la démocratie et sur aussi la question de l'implication de la famille dans les affaires de l'État. Il fait campagne en partant de ce bilan-là, qui est quand même à bien des égards positif, notamment en termes d'infrastructure, en termes de politique sociale et aussi en termes de calme institutionnel par rapport aux deux mandats d'Abdoulaye Wade.
Passons maintenant à Idrissa Seck, qui est considéré comme le challenger le plus expérimenté.
Je pense qu'il a le meilleur programme en termes de travail scientifique, en termes de travail de rigueur, aussi d'implication de techniciens et d'experts du Sénégal et de la diaspora. Et c'est quelqu'un qui en est donc à sa 3e candidature et pour moi qui est l'un des favoris avec les candidats sortants.
Et qu'est-ce que vous retenez de la campagne du candidat Ousmane Sonko?
Ousmane Sonko a un discours intéressant, notamment sur la mise sur la place publique des questions liées à la souveraineté, les questions liées à la nation, à la patrie, les questions aussi liées au modèle économique endogène. C'est un discours populo-nationaliste, mais qui trouve quand même quelque part des adhérents et des tenants, des militants aussi au sein de la jeunesse. Et c'est important que ces questions leur soient adressées, sans verser bien entendu dans la xénophobie ou dans l'indexation de l'autre comme acteur de notre malheur.
S'agissant du professeur Elhadj Issa Sall maintenant.
Issa Sall est un candidat qui a un lien ambigu avec la religion, il faut le dire clairement, parce que son parti est quelque part l'émanation du mouvement religieux des Moussa Chidine. Mais c'est un candidat anti-système, un peu à l'instar de Sonko, mais qui fait preuve d'une maturité, d'une exigence de rigueur aussi dans la déclinaison de ses ambitions, mais aussi dans ses critiques vis-à-vis du président sortant.
Et enfin, le candidat Madi Kenya, pour terminer, on a vu qu'il a accumulé beaucoup de sympathies venant des Sénégalais durant cette campagne électorale.
C'est quelqu'un que les Sénégalais découvrent, quelqu'un qui était dans la galaxie d'Abdoulaye Wade pendant 12 ans avant de s'en détacher récemment suite à l'invalidation de la candidature de Karim Wade. C'est quelqu'un qui incarne le PDS, qui n'a jamais raté une élection depuis 1974. C'est un homme courtois, élégant, mais bon, dont on tarde quand même à voir les propositions concrètes, le projet de société pour le peuple sénégalais.
Après avoir suivi et écoutez, les offres des 5 candidats à la présidentielle, les Sénégalais vont porter leur choix sur celui qui les aura convaincus pour présider à leur destinée pour les 5 prochaines années. À Dakar, Seydina Abagué pour VOA Afrique.
Édition spéciale sur l'élection présidentielle au Sénégal. Ce dimanche 24 février 2019 sur VOA Afrique. Retrouvez la rédaction ici à Washington et nos correspondants et notre envoyé spécial à Dakar pour la couverture de ce scrutin. Macky Sall face à 4 opposants, reportage et analyse, c'est ce dimanche 24 février 2019 à 16h et 21h en temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au Mali, début hier, des activités de la 19e édition du Forum de Bamako, Thème de cette rencontre internationale, l'immigration. Quelle dynamique entre l'Europe et l'Afrique, opportunités ou menaces pour les pays d'accueil. Plusieurs personnalités ont participé à la cérémonie d'ouverture présidée par le Premier ministre malien. Le point avec Kassim Traoré.
Sans être des migrants, les chercheurs, universitaires et des étudiants ont pris d'assaut la salle des banquets du Centre international de conférences de Bamako. C'est là pour être témoin de la séance inaugurale du Forum de Bamako, dont l'immigration est le thème central. Abdoulaye Koulibaly, président de la Fondation Forum de Bamako.
Sur un plan conforme aux idéaux des Nations Unies, tout individu est en droit de se considérer comme citoyen du monde. D'après les statistiques onusiennes, le nombre de migrants internationaux est estimé actuellement à environ 200 millions. Les mêmes sources prétendent que ce chiffre augmente annuellement de 2%. On assiste à la même progression quant aux migrations internes au pays, migration qu'on appelle encore déplacement des populations.
Pour le professeur Alioune Sall du Sénégal, la migration est un outil de développement humain.
La migration est un droit humain. Elle est reconnue, consacrée dans les conventions internationales. Mais comment organiser les vivre ensemble et accepter l'idée que je peux être le prochain de quelqu'un qui ne m'est pas proche physiquement ou racialement. Mais nous pouvons être des proches. Je peux être le prochain de quelqu'un qui est différent de moi. Et comment organiser les vivre ensemble? Comment faire de la diversité une richesse? C'est une orientation importante à considérer.
Les impacts positifs de la migration sont visibles dans le développement des pays de départ. C'est ce que reconnaît la directrice des opérations de la Banque mondiale, Sukeina Khan.
Les enjeux liés au mouvement migratoire et leur impact sur la croissance économique et la réduction de la pauvreté sont d'une importance capitale pour la Banque mondiale. L'institution pourrait contribuer davantage au programme mondial en matière de migration dans quatre domaines. Financer les programmes de migration, s'attaquer aux facteurs fondamentaux de la migration, notamment en réduisant les inégalités, maximiser les avantages et gérer les risques de la migration dans les pays d'origine et d'accueil, et enfin fournir des études pour l'élaboration de politiques publiques et améliorer la perception du public.
Le Premier ministre malien, Soumaïlou Boubé Maïga.
Le gouvernement envisage d'adopter prochainement les textes qui vont consacrer l'administration institutionnelle du CIGEM pour en faire un observatoire national des migrations. Au regard de l'expérience malienne en matière de gestion des migrations et confiant à son engagement politique constant, l'Union africaine a conclu à la faveur de son dernier sommet tenu à Addis Abeba un accord de siège avec nous pour l'installation à Bamako du Centre africain d'études et de recherche sur les migrations.
Pendant 3 jours, les participants seront répartis entre 5 panels, dont le plus attendu est celui de la sécurité alimentaire, qui doit poser les jalons de la fixation des migrants Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Le FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, célèbre ses 50 ans du 23 février au 2 mars en présence de nombreux réalisateurs, acteurs, producteurs et cinéastes venus des quatre coins du continent et de la diaspora. Eleonore Yemeogo est la réalisatrice du film « Le cimetière des éléphants » en compétition officielle au FESPACO. Allons à sa rencontre, dans ce gros plan réalisé par Arzuma Compaoré.
Eleonore Yemeogo, c'est une jeune réalisatrice née au Burkina Faso, qui vit aujourd'hui en France, qui a eu à réaliser il y a quelques années un film documentaire qui s'appelle « Paris, mon paradis » et qui revient aujourd'hui avec un film sur la mémoire des missionnaires qui s'appelle « Le cimetière des éléphants », sélectionné en compétition officielle au FESPACO. Je suis partie à la rencontre de ces missionnaires qui habitent aujourd'hui en région parisienne. Ces missionnaires pères blancs qui ont évangélisé l'Afrique de l'Ouest, notamment le Burkina Faso. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire parce que c'est une histoire qu'on ne connaît pas et c'est des images qu'on a rarement vues à l'écran.
Très vite, je me suis rendu compte qu'ils ne priaient pas Dieu. Ils priaient les ancêtres qui, eux, parlaient à Dieu.
Et nous, on est venu leur annoncer un Dieu, mais non, c'est pas un Dieu comme ça.
La difficulté, c'était comment arriver à s'infiltrer dans ce milieu secret des prêtres. C'est ça la difficulté. Donc, on a eu beaucoup de problèmes pour avoir des autorisations, mais bon, j'ai pu, au final, me les faire comprendre que ce film est important pour l'Afrique et aussi pour les missionnaires, pour qu'ils puissent répondre enfin sur des questions assez sensibles.
Les missions se sont toujours posées
à la colonisation.
Ce qui m'a touchée, en fait, c'est que ces personnes, ces anciens missionnaires, se retrouvent au soir de leur vie. Et j'ai l'impression qu'ils avaient envie de parler, de raconter leurs histoires, de témoigner de ce qu'ils ont vu en Afrique, de ce qu'ils ont vécu en Afrique. Et il n'y avait pas encore eu de film fait sur leur situation. C'est comme s'ils attendaient ce film, en fait. Le besoin de délivrer la mémoire.
Avec le colonisateur, ils font partie de ceux qui ont détruit des aspects de la culture africaine.
Je n'ai jamais fait quelque chose là-bas qui les a endormis, je vous garantis. Moi, je les ai fait bouger, travailler, changer, et puis c'est tout.
En Afrique, au Burkina Faso, les producteurs sont leurs propres réalisateurs. Donc, ils mettent en avant leurs propres projets, ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes n'arrivent pas à produire des films. Il y a des jeunes brillants qui sortent des écoles, ils n'arrivent pas à tourner parce qu'aujourd'hui, les maisons de production en Afrique ne sont pas des vraies maisons de production. Elles sont juste créées pour produire leurs propres projets. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. S'il y a une seule chose que je peux changer dans le monde, c'est la place de la femme dans ce monde. Je pense que la femme, elle occupe une place injuste parce que nous sommes la mère, comme on dit, nous portons le monde et je pense qu'il faut donner la place qu'on mérite.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Le pape François a réclamé hier des mesures concrètes et efficaces au début d'un sommet mondial au Vatican sur la protection des mineurs dans l'Église, consacré aux moyens de lutter contre les abus sexuels perpétrés par des membres du clergé. Éric Manirakiza a joint au Vatican Mgr Janvier-Marie Gustave Yemehugo, chargé de l'Afrique et du secteur francophone, secrétariat pour la communication.
Le cardinal Parle, archevêque de Manille aux Philippines, qui a prononcé le premier discours, la première méditation, avant même l'intervention du pape, a vraiment aimé tout le monde en rappelant que l'Église a pour mission d'annoncer Jésus-Christ ressuscité et il est revenu sur l'image de Jésus-Christ ressuscité qui montre ses plaies à ses apôtres après sa résurrection. Et il a rappelé à tous les évêques réunis que l'Évangile montre clairement que ceux qui sont envoyés pour proclamer le cœur de la foi chrétienne, la mort et la résurrection du Christ ne peuvent le faire avec authenticité s'ils sont constamment en contact avec les blessures de l'humanité, des blessures qui ont été infligées justement par des membres de l'Église. Et il était au bord des larmes en disant tout cela.
Et qu'est-ce que le pape a dit?
Quelque chose de très fort. Il a dit « Commençons notre cheminement armé de la foi, de l'esprit du courage extrême de la vérité et d'être concret. » Et il a dit « Le saint peuple de Dieu nous regarde et il attend de nous non de simples et inévitables condamnations, mais des mesures concrètes et efficaces à préparer. »
Donc une rencontre qui se déroule dans la douleur, l'image de l'Église catholique qui a été écornée par ces abus, est-ce qu'on est à la fin du tunnel?
Au cours de cette rencontre, il y a présent des victimes qui donnent leur témoignage et qui ont lancé des appels forts, effectivement, pour reconstituer un leadership fort dans l'Église. Mais l'accent, encore une fois, n'est pas mis sur l'Église comme institution, mais que ce moment soit transformé en une opportunité pour apporter la guérison et pour purifier les manières de procéder à l'intérieur de l'Église pour qu'on arrive à la tolérance zéro, pour que ces choses-là n'arrivent plus.
Cette situation a provoqué beaucoup de remous dans les rangs des fidèles et au sein même de l'opinion en général. Et certains pensent qu'en permettant aux prêtres de se marier, on pourrait éradiquer cette situation.
Il ne faut pas oublier que ce phénomène s'insère dans une ambiance socioculturelle moderne de permissivité où, en fait, la morale, le bien et le mal deviennent confus et on ne peut pas accuser le célibat ou autre chose. Parce que c'est vrai que la plaie a été très violente, surtout dans le refus de reconnaître justement que ceux qui devaient être les prêtres, les pasteurs des âmes, qui devaient s'occuper vraiment des enfants, là où les enfants devraient se sentir en sécurité, ce sont eux qui sont devenus effectivement des abuseurs d'enfants. Et c'est ça vraiment l'horreur du crime dans la société. Vous n'ignorez pas que la plupart des abus sexuels se passent aussi dans les familles et avec des gens qui sont mariés. Pour le moment, nous nous occupons de linge sale dans l'église qui se lave en public.
C'était Monseigneur Janvier-Marie Gustave Yaméogo, chargé de l'Afrique du secteur francophone, secrétariat pour la communication. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.